When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh bien, du coup, on est dans ce super cadre. Merci beaucoup de m'accueillir. Du coup, on est au Centre National des Sports et de la Défense.
C'est ça,
j'ai bien prononcé. Ouais. À Fontainebleau.
C'est ça.
Un lieu que j'apprécie particulièrement parce que moi, je vais faire du trail ici. Et de temps en temps, je vais grimper, faire du bloc avec des copains.
Il y a beaucoup de gros rochers et de belles forêts pour courir ici.
Ouais, c'est vraiment génial. C'est un super terrain de jeu. D'ailleurs, je dois faire les 25 bosses là dans 3 semaines.
Bah, donc, je pense que nous aussi, on va pas y être en même temps. Mais okay. Avec le service, on a prévu aussi de faire les 25 bosses. Moi, je ne l'ai jamais fait. J'ai pas mal de personnes du service qui l'ont fait. Et apparemment, c'est pas mal. C'est bien à faire. Ouais. Il y en a qui le font en marchant. Il y en a qui le font en courant ou en marche-course. Mais à mon avis, tu vas te régaler.
Ah oui, clairement. Ouais. Je le connais. J'ai déjà fait il y a un petit moment. Alors moi, j'ai eu une grosse pause course à pied à cause de soucis de santé, mais là, j'ai hâte. Ouais. Il me tarde de revenir et de pouvoir gambader sur les sentiers, quoi.
Donc, tu vas te régaler là-bas, je pense.
Mais du coup, écoute, merci infiniment pour l'accueil. Je connaissais pas du tout. Tu m'as fait la petite présentation.
Avec plaisir.
Donc voilà, si vous êtes à Fontainebleau, sachez qu'il y a un lieu historique du sport et des sports militaires,
ouais,
en tout cas.
C'est ça.
Ici et dans lequel tu t'entraînes depuis un an, tu m'as dit.
Je m'entraîne, surtout j'y travaille.
Ouais, tu travailles, voilà, surtout. Ouais. Donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça après, mais avant tout, on a parlé un peu de l'enfance d'ailleurs à l'instant là. La première question traditionnelle sur le podcast, bientôt 200 interviews enregistrées, donc on radote, mais elle plaît toujours autant cette question, j'espère.
Puis chacun a son histoire en plus, donc.
Exactement, et puis ça permet de connecter aussi beaucoup, je trouve, avec les auditeurs, parce qu'on a tous des sujets qui peuvent être un peu similaires, tu vois.
Ouais.
Et cette première question, c'est quel est ton premier souvenir de sport ?
Mon premier souvenir de sport, forcément, ça va être moi mon premier souvenir là quand tu me demandes ça, c'est le taekwondo.
Ouais.
Ça a été mon sport de prédilection et j'ai commencé très 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 jeune, à l'âge de 6 ans.
Ouais.
Par hasard, on est une famille de 11 enfants. Okay. Donc ma mère, elle a fait 11 enfants.
Chapeau. Voilà, félicitations à elle.
Merci.
C'est aussi un sport de haut niveau.
Ouais, et donc en fait, elle nous aime. Les 6 derniers, en fait, du coup les 5 parce que j'avais une sœur qui pouvait pas pratiquer. Les 5 derniers, elle nous a mis au taekwondo. Donc moi à l'âge de 6 ans et mon premier souvenir que j'ai, c'est en fait arriver avec mes deux frères et mes deux sœurs dans la salle et se présenter et dire voilà ben on veut s'inscrire au taekwondo. Et en fait c'est avoir découvert ce sport, avoir mis pour la première fois, bon, j'avais l'âge de 6 ans et je me rappelle que mon entraîneur il m'a dit tu veux plutôt faire du combat donc à touche ou du combat sans se toucher. Et moi je me rappelle que je lui avais répondu moi j'aime bien la bagarre donc du combat avec touche. Et c'était pas autorisé à l'époque parce que à 6 ans c'est sans touche, mais il m'avait fait essayer le plastron, on appelle ouais. comme ça, et j'avais tout de suite accroché. Et le soir même de notre première séance avec mon petit frère, en fait, ma mère elle nous avait acheté tous les équipements. Et à la maison, on était en train de faire des combats avec touche, avec le plastron et le casque. Donc lui, il était plus petit que moi, il avait 4 ans, et moi j'en avais 6. Donc okay. Ça, c'est mon premier gros souvenir d'enfance qui est lié au taekwondo.
Ok. Ouais. Et vous vous chamailliez beaucoup avec tes frères et sœurs, tu vois. J'imagine si vous allez au taekwondo, bon, c'est peut-être orienté par ta maman comme tu l'as dit, mais si vous rentrez et que le soir même vous essayez le plastron et que vous avez envie de faire vos premiers, je sais pas comment on peut dire.
Bah combat, c'est ouais, tester en combats, fait. Ouais. Ouais, on se chamaillait, mais c'était vraiment tout le temps sain, de l'amusement, il y avait vraiment de pas, enfin, on s'amusait. Et ouais. Et voilà, en fait, c'est étonnant parce que lui et moi, c'était celui avec qui on avait plus accroché le taekwondo et ouais. une autre aussi de mes petites sœurs. Et plus tard, elle s'est retrouvée à l'INSEP avec moi pendant 3 années. Donc, en fait, on aimait. Moi, j'en ai 32, il en a 29, donc on se chamaillait tout le temps. On rentrait de l'entraînement, on se chamaillait encore. Le mardi et vendredi, en fait, on demandait, comme il n'y avait pas école le lendemain, on demandait à notre mère si on pouvait rester. Donc nous, on faisait l'entraînement de 5h30 après l'école.
Ouais.
Et en fait, on restait jusqu'à l'entraînement des grands à 22h.
Okay.
Et mon père, il habitait en face du gymnase. Donc en fait, il venait nous récupérer à 22h, on dormait chez lui. Donc ouais, on était tout le temps en train de se chamailler les uns les autres, faire des coups de pied, des coups de poing, crier. Mais c'est que des beaux souvenirs.
Ouais, mais j'imagine. Et j'imagine, enfin aussi que vous avez été pris un peu, enfin très bien accueilli par le club, quoi, pour avoir envie de rester aussi tard avec les grands et tout.
Oui.
C'est que c'est une deuxième maison presque.
C'est ça, en fait. C'est moi, je dirais que j'ai pratiquement grandi là-bas parce qu'en fait, j'ai été dans un club où on avait la chance de s'entraîner, et presque 5 fois par semaine.
Ouais.
Parce que même le mercredi de temps en temps, il y avait des entraînements pour les combattants, ceux qui préparaient des compétitions. Et en fait, il y avait lundi et jeudi où c'était essentiellement de la technique, du renforcement musculaire, de la condition physique. Et le mardi et vendredi, c'était que des combats.
Okay.
En fait, j'adorais aller le mardi et le mercredi, mardi et vendredi pour les combats. Mais lundi et le jeudi, en fait, ça me passionnait aussi parce qu'en fait, j'apprenais aussi à, en fait, la technique, les valeurs aussi du sport. Et en fait, j'avais l'impression de plus m'amuser sur le court combat ouais. et de plus apprendre un peu la notion vraiment du taekwondo et de la technicité pendant les cours techniques du lundi et du jeudi.
Ok.
Mais okay. ouais, c'était un très très bon club et deux très bons entraîneurs.
Ok, tu peux les citer ? Enfin, le club.
Le club, c'était à Vénissieux parce que moi, je suis née à Lyon.
Ouais.
Et on a déménagé très tôt quand j'étais petite et on a habité sur Vénissieux.
Ouais.
Et donc le club, c'était le premier, le plus près en fait. On pouvait y aller à pied, c'était à 5 minutes à pied. Donc c'était les entraîneurs, c'était les frères Maloum.
Ouais.
Et voilà, qui ont été de très bons entraîneurs. Malheureusement, je suis plus dans ce club actuellement, mais je reste en contact souvent avec eux.
Bien voilà. sûr. Bon bah écoute, génial. Écoute, on les embrasse. J'ai l'impression que t'as été très vite, tout de suite passionné en fait par ce sport. Tu saurais dire, tu vois, ou tu te souviendrais de quelles sont les émotions qui t'ont plu? Qu'est-ce qui a fait que tout de suite t'as été piqué par le virus, quoi?
Ouais, c'est vrai que j'ai été tout de suite passionnée, en fait. Moi, je rentrais de l'école. J'étais en primaire. Hein, je rentrais de l'école. Il était 4h45. Mais la seule chose que j'attendais, c'était de mettre mon dobok et d'aller à l'entraînement. Mais vraiment, je, si je pouvais rentrer en courant de l'école, je disais non, maman, viens pas me chercher, je rentre en courant ou je vais direct au club. Je l'aurais fait. Mais je pense en fait c'est bah déjà de retrouver un petit peu. Il y a beaucoup de valeurs dans le taekwondo, de respect et j'ai eu une éducation où ma mère elle nous a beaucoup aussi inculqué ces valeurs de respect. De confiance en soi aussi, de respecter malgré que ce soit un sport de combat, de respecter l'adversaire et les camarades aussi qui sont autour de moi. Mais ça m'a donné confiance en moi aussi, parce que l'âge de 6 ans, forcément, on sait pas trop si on a confiance, on n'a pas ces notions-là. Bien sûr. Avec le recul aujourd'hui, en fait, quand j'y allais, comme je me sentais hyper à l'aise aussi dans la pratique, je voyais que j'étais souple, que j'étais une bagarreuse, que j'étais agressive, ce qui n'était pas du tout mon comportement en règle générale. Mais en fait, quand je mettais les pieds sur ce tapis, bah en fait, c'est ça qui se développait et qui ressortait.
Okay.
Donc c'est vrai que j'ai été prise d'amour par le taekwondo très très rapidement. Le fait aussi peut-être de le partager avec mes frères et sœurs, d'aller en compétition même jeune et de voir que je gagnais. Ouais. Mes frères aussi gagnaient, c'était une fierté en fait, sans s'en rendre compte parce que j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, mais ça devenait petit à petit ouais, une fierté pour moi en fait.
Ok, c'est marrant que tu cites, tu vois, cette agressivité, cet état d'esprit, tu vois, de la combattance. Je te disais en préparation, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, parce qu'effectivement, tu vois, tel que je te rends compte, tu vois, je te vois super douce, t'as été super avenante avec moi, on a tout de suite pu discuter, tu vois, et j'ai pas, tu vois, je me serais jamais douté, bon, je savais très bien qui tu étais, mais on se serait croisé dans une autre vie, je me serais jamais douté de ça de toi, tu vois.
Ouais, bah
de
ouais,
cette double, enfin, je vais pas dire double personnalité, mais.
Les apparences sont trompeuses, hein. Non, mais c'est sûr, et je pense que, c'est vrai que on en a parlé un petit peu en amont, mais le comportement que je pouvais avoir sur l'air de combat, alors il y en a même, je dirais trois, parce qu'il y a le comportement que j'ai dans la vie, où je suis une personne plutôt calme, plutôt sereine, je dirais pas encore remplie de sagesse parce que j'ai pas 60 ans non plus, hein, mais voilà, je pense que je suis une personne réfléchie et sage, même si parfois j'ai un peu des coups de fougue ou voilà.
Comme tout le monde.
Et j'ai le comportement et le caractère et la personnalité, je dirais plutôt de l'entraînement, voilà. Et une autre où c'est vraiment l'air de combat, la compétition et le moment où en fait c'est soit elle qui gagne, soit moi qui gagne.
Ouais.
Donc c'est vrai que et à aucun moment en fait le taekwondo et l'agressivité que je pouvais avoir sur l'air de combat a changé ma personnalité, celle que j'ai naturellement dans la vie avec les uns et les autres, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un de bienveillante. En fait, je pense que je suis très compatissante. En fait, j'aime l'être humain.
Ouais.
Donc j'aime l'être humain et j'aime voir la personne qui est en face de moi ou n'importe quelle personne, que je la connaisse ou pas, qu'elle soit bien en fait. Et à l'entraînement, c'est la même chose. Quand je m'entraîne, je pense un peu plus à moi parce que j'ai envie de progresser et donc du coup je me recentre un peu sur moi-même, ce que je fais pas dans la vie, parce que dans la vie je suis plutôt centrée sur l'autre. Et après sur la compétition, en fait, même si c'est un rapport avec un adversaire, ben en fait je me dis là, ça me transcende en fait.
Ouais.
Je laisse plus rien passer. Et par contre, une fois que l'arbitre il a fini, ok, t'as gagné ou t'as gagné, ben je redeviens celle que je suis naturellement. Je la salue parce que c'est le respect du sport de combat, parce que c'est ma nature aussi. Et voilà.
Ouais. Et tu sais s'il y a des traits de personnalité que t'as dû faire évoluer justement ou que t'as découvert, tu vois, grâce au taekwondo.
C'est
pas facile hein, comme question.
Ouais,
mais...
c'est pas facile parce que en fait j'ai envie de t'en dire une, mais c'est peut-être négatif. Je sais pas trop parce qu'en fait quand tu fais du sport de haut niveau, à un moment donné, il faut se recentrer un peu, il faut penser à soi-même. Donc j'ai envie de dire égoïste. Je sais pas si c'est le bon mot. C'est plutôt péjoratif de se dire d'être égoïste. Mais alors j'ai fait et puis dans la vie, je suis quelqu'un qui donne, qui donne, qui donne. À l'entraînement, je suis quelqu'un qui donne. En fait, j'ai envie de faire progresser aussi l'autre.
Ouais.
Mais je pense que le fait de d'avoir voulu faire progresser l'autre, j'ai forcément progressé aussi moi.
Ouais.
Parce que comme j'ai envie de faire bien pour l'autre, je suis obligée de moi-même faire bien. Mais à un moment donné dans ma carrière, où j'ai peut-être qu'on en parlera plus tard, j'ai eu des moments difficiles des défaites, perte d'un proche, etc. Où en fait, il fallait que je me ressente sur moi-même pour me relever, entre guillemets.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mais en tout cas, c'est se recentrer sur soi-même. Donc, j'ai découvert qu'en fait, dans la vie, je ne suis pas du tout centrée sur moi-même. Je suis plutôt ouverte à l'autre. Mais à un moment donné, dans ma carrière, ouais, j'ai dû me recentrer sur moi-même. Donc, ce trait de personnalité. Et après, il y a cette... moi, j'ai été quelqu'un aussi de très timide, enfin, de réservé, de très discrète. Donc, moi, quand je gagne une compétition, aller sur le podium, enfin, c'est une fierté. Hein. Mais je ne vais pas en courant en disant « Ouh, je suis sur le podium !» Enfin, limite, je ne suis pas gênée d'aller sur le podium, mais je suis, de voir tous ces applaudissements, qu'on te remette la médaille, qu'on te donne un chèque quand il y en a, ou etc. Ben, en fait, je suis réservée. Ça me gêne un peu.
Okay.
Et du coup, ça a développé... ça a développé aussi, ça m'a permis aussi de peut-être un peu plus m'ouvrir en tant que personne. Et tu vois, il y a 5 ans ou 6, 10 ans de ça, j'aurais été incapable de te parler peut-être face à face avec un micro et raconter un petit peu mon histoire. Ouais. Parce que trop timide, parce que j'avais peut-être pas les bons mots. Donc en fait, ça m'a aussi, je pense qu'il y a une prise de confiance en soi qui se fait et,
Mais c'est intéressant ce que tu dis, je le retrouve très souvent, tu vois, chez beaucoup d'athlètes, tu vois, un peu cette timidité ou ce côté très réservé sur lequel par la force des choses, t'es obligé de t'ouvrir parce que tu rencontres du monde,
ouais,
parce que tu dois t'entourer aussi. Tu vas nous parler un peu après de ton rythme, mais tu bosses avec un préparateur physique, avec un coach, avec des kinés, donc pour les embarquer dans le projet, faut aussi un peu leur parler, faut s'ouvrir, enfin tu vois.
C'est ça.
Et en plus, ouais, t'as l'aspect un peu médiatique.
Qui aide aussi finalement, donc c'est important.
Ouais, ok. Mais c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Et ça a été naturel et instinctif pour toi cet esprit du combat, tu vois, ou de monter du coup sur le tatami et te dire là il faut que je gagne, quoi, que je sois bien ou que je sois pas bien, que je sois dans un bon jour, que j'ai eu un moment difficile et tout, en fait là il faut être meilleur que l'autre, quoi. C'est naturel pour toi?
Ouais, parce que j'ai jamais fait attention à la personnalité que j'avais quand je rentrais sur l'aire de combat, qu'en fait elle venait naturellement. En fait, j'avais une personne en face de moi, je savais qu'en fait c'était elle qui gagnait ou moi qui gagnais, et forcément à partir de ce moment-là, je pense que c'est l'instinct de survie aussi qui rentre dans le jeu.
Ouais.
Et c'est vrai que naturellement, moi j'ai commencé la compète hyper hyper tôt, d'abord régional, départemental, parce que j'étais dans mon club. Et puis après, j'ai commencé à être détectée en championnat de France, etc. Mais les premières compétitions, alors moi, je me souviens que les filles de la région, du coup, Rhône-Alpes, elles n'étaient pas sereines. Alors, je ne sais pas si ça me donnait une force supplémentaire sur l'aire de combat. Mais en fait, moi, mon objectif, c'était au début, parce que c'est de la fougue, un peu de la jeunesse, je veux finir le combat en moins de secondes possible. Donc je frappe sans m'arrêter.
Okay.
Alors si je peux mettre KO, je mets KO parce que c'est le combat. Et mais voilà, en fait, et je me souviens d'une discussion de deux filles. Alors j'étais au championnat de France, j'étais minime, j'étais en moins de 27 kilos, j'avais je crois 10 ans. Et les deux filles, en fait, on était dans les toilettes, moi j'étais aux toilettes, et puis elles parlent entre elles, et puis j'en entends une qui dit je suis dégoûtée, je vais prendre Yasmina Aziz au premier tour.
Okay.
Et du coup, en fait, moi, je suis restée aux toilettes parce que j'étais gênée. Je voulais pas sortir à ce moment-là, dire « Oh purée, elle m'a entendue, en fait. » J'ai dit « Je vais rester aux toilettes et je vais attendre qu'elle parte et je partirai. » Et en fait, je me suis dit « Bah purée, ouais, ça fait bizarre, en fait, que la fille, elle est petite, elle a 11 ans. » Et qu'elle se dit ça. Donc, en même temps, la personne que j'étais, elle s'est dit « C'est pas bien qu'elle pense ça. » Et en même temps, la combattante, elle me disait « Bah en fait, c'est bien qu'elle pense ça. Parce que sur l'aire de combat, en fait, quand tu vas y aller, déjà, tu vas avoir l'ascendant psychologique sur ton adversaire.
Bien sûr.
Et ça, en taekwondo et dans un sport de combat, en fait, avoir l'ascendant psychologique, c'est une partie de gagner et c'est très important.
Ouais. Ouais, ça fait, j'ai envie de te dire, ça fait presque tout, quoi.
Bah ouais, parce qu'en fait, tu te dis, bon, après, tu peux perdre contre des nanas qui ont peur de toi. Parce qu'en fait, t'as eu un excès de confiance et en fait, tu t'es pas attendu. Il s'est passé un truc dans le combat.
Puis elle, ça les transcende. Mais ouais, voilà. Genre, il peut y avoir d'autres choses.
Mais la plupart du temps, quand t'as l'ascendant en fait psychologique, déjà, tu t'es emparé d'une partie, on va dire psychologique de la personne.
Ouais.
Et toi, bah en fait, ça te donne un, ça te donne de la force.
Ouais.
Ça te donne de la force et de la confiance.
Ouais, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. T'as déjà créé un scénario dans le cerveau de l'autre dans lequel il est possible que toi tu gagnes.
Voilà. Et alors c'est pas sûr, hein.
Ça remet du, ça met du doute, quoi.
Mais ça penche de ton côté, en tout cas.
Ouais.
Donc, c'est vrai que dans le sport de combat, mais dans tout autre sport, mais le sport de combat, je sais pas pourquoi, peut-être un peu plus, comme il y a de la confrontation directe avec un adversaire, et ben, l'aspect psychologique, la peur de perdre, etc., elle peut, en fait, elle peut te faire perdre comme elle peut te faire gagner.
Ouais.
Donc, pour moi, c'est hyper important. En tout cas, moi, ça a de l'importance.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu sais pourquoi elle disait ça, cette jeune fille ?
Bah non, mais je pense qu'en fait, le taekwondo, c'est un milieu pas très très grand, et je pense que peut-être qu'elle a regardé des compétitions auparavant ou qu'elle était sur des compétitions un petit peu régionales ou des fois donc on a des compètes régionales en Rhône-Alpes où il y a Paris qui vient, il y a
bien sûr.
Et ça fait des compètes nationales mais c'est pas des championnats de France et là je pense qu'en fait elle avait dû entendre parler voilà ouais. mais comme j'étais très jeune et que j'avais pas fait de championnat de France, c'était ma première année. J'en avais pas fait encore et ben je sais pas mais c'est des de bouche à oreille je pense.
Ok, d'accord. Mais tu sais ce qu'elle redoutait ? C'est quoi ce côté hyper offensif ?
En fait, je pense que je faisais mal. J'étais méchante. Okay. Enfin, sur l'aire de combat, j'étais méchante.
Ouais.
Et plus j'ai grandi, moi, je l'étais. Parce que j'ai appris avec autre chose.
Bien sûr.
Donc, je pense que c'est vrai que quand je regarde des vidéos de moi avant, je me dis, putain, mais en fait, je fais Tchaliot connaît. Tchaliot, c'est pour saluer ton adversaire. Tu le salues. Et tu lui dis bon courage en même temps. Hein. Et là, en fait, moi, je lâchais mes jambes. Il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas de tactique. J'avais un cardio de fou.
Ouais.
Parce qu'en fait, je bougeais tellement de partout à l'entraînement. Je faisais trois heures d'entraînement. J'aimais bien courir avec mon petit frère. On faisait des séances. Et en fait, j'avais un gros, gros cardio. Donc, je pouvais me permettre pendant 2 minutes de frapper. Et des fois, en fait, l'entraîneur, il jetait l'éponge parce que, bah voilà, des fois, bah, je finissais avant la fin du combat. Des fois, j'avais tellement un score élevé que, bah, l'arbitre, il arrêtait. Donc, ouais, je pense qu'elle redoutait ça. Et
okay.
En fait, je le dis en toute humilité parce que c'est, aujourd'hui, mon style de combat, il est différent.
Ouais.
Mais voilà, je pense que c'était ça qu'elle redoutait. Et à l'international, quand j'ai commencé aussi à performer à l'international, quand j'étais en équipe de France. Et eh ben en fait pour ma catégorie de poids, je pense que je tapais hyper fort. Alors que j'ai les os durs hein, je sais pas mais donc voilà.
OK. Et mais attends, c'est hyper intéressant et t'as jamais souffert de cette dualité justement de la Yasmina qui est hyper douce, avenante, compatissante, tu vois, en dehors de ça, très joviale et tout. Et au contraire beaucoup plus agressive, mais dans le bon sens du terme, tu vois, beaucoup plus offensive. Ouais, ça t'a jamais affecté. Tu vois, justement, on parle beaucoup, tu vois, en ce moment, il y a beaucoup de débats un peu sur le genre, sur les adjectifs qu'on va donner plutôt à des hommes, à des femmes.
Ouais.
Et là, tu vois, j'imagine la petite Yasmina qui est aux toilettes et quand on ça qu'on dise, ouais, ou je sais pas, elle tape super fort, elle fait mal, tu vois, moi, je l'aurais mal pris, tu vois, qu'on dise ça de moi. Qu'on me voit méchamment, tu vois.
En fait, je sais pas, elle va être peut-être bizarre ma réponse, mais en fait, quand tu fais un sport de combat et que la nana dit ça, enfin, après, à 11 ans, peut-être que je me rappelle plus trop ce que j'ai pensé. Moi, je sais que justement, je me suis mis un peu en retrait parce que je voulais pas qu'elle me voie sortir.
Ouais.
En fait, je me serve de ça. Je voulais faire comme si, je l'avais jamais entendu. Mais je pense pas en avoir souffert parce que vraiment, ça, c'était vraiment une partie, qu'on pense ça de moi. En fait, on pensait ça de moi que en compétitrice. Et pas en personne, donc ça m'a jamais dérangé. Mais à partir du moment où peut-être que j'aurais entendu les gens me dire que je suis une personne méchante, alors que je suis pas, ça m'aurait peut-être fait mal, ouais.
Bien sûr.
Mais là, en fait, c'est vraiment ce que je suis quand je suis sur une aire de combat. Parce que tu me vois m'entraîner, bah, je m'entraîne avec plaisir, avec le sourire, la patate, tout. Et en fait, dès que je mets les pieds sur l'aire de combat, où en fait, il y a ce rapport de force, cette confrontation directe, où là, en fait, c'est tu gagnes, tu perds. Mais en fait, je voulais pas perdre.
Ok, ouais.
Donc finalement, voilà. Mais par contre, tu vois, donc agressive sur l'aire de combat. J'ai perdu mon papa en 2015. Et à partir du moment-là, j'étais à la quête pour la qualification des Jeux. J'étais première au ranking olympique. Enfin, j'étais hyper, hyper bien. Je venais de faire une année 2014, mais plus qu'exceptionnelle. 20 compètes, 20 médailles. Je le perds. Et en fait, je perds toute mon agressivité sur l'aire de combat. Donc peut-être qu'on en parlera plus tard, mais tu vois, là, ouais, j'en ai souffert parce que du coup, j'étais plus celle que j'étais sur l'aire de combat. J'étais la fille trop gentille, et très, pas trop, parce qu'on n'est jamais trop gentil, mais très gentille, que je suis sur dans la vie.
Ouais.
Et en fait, ça m'a desservie.
Tu sais pourquoi t'as perdu autant de cette agressivité à ce moment-là ?
Bah déjà, on perd son père, donc je pense qu'il y a une partie en même temps de soi.
Malheureux, qui, voilà. Il y a du malheur, c'est sûr.
Voilà.
Malheureuse.
Et ensuite, lui, il venait sur les championnats de France tout le temps. Il venait me voir parce qu'il habitait à Lyon, parce que voilà, mes parents, ils s'étaient séparés, mais ils étaient en très bons termes. Il était très proche de nous et donc il adorait le taekwondo aussi. Il aimait bien venir, enfin voir. Et je me rappelle de cette dernière fois où il est venu, c'était en... Alors moi, je l'ai perdu le 1er janvier 2015 et l'année 2014, bah il était venu au championnat de France voir et en fait c'était un peu un rituel entre guillemets.
Bien sûr.
Et du coup, je pense qu'en fait, un être cher s'en va, ce qui est plus important dans ta vie. Le taekwondo, je pense que ça avait plus toute son importance. Et du coup, ce que j'arrivais à décaver quand j'étais sur l'aire de combat, mais impossible. Alors quand je te dis, mais alors j'avais beau me préparer, me dire ok, en fait c'était tellement naturel, ça sortait tellement naturellement que ça se prépare pas en amont.
Bien sûr.
Toi, tu peux pas te dire ok, sois agressive. C'est tu rentres sur le tapis et tu l'es.
Ouais.
Et en fait, je l'avais pas. J'étais une serviette, quoi. Tu vois, que un chiffon. C'était hyper difficile. Donc là, ouais, ça m'a... Enfin, tu vois, c'est bizarre parce que je le dis dans l'autre sens, du coup. Et ça m'a desservi, ça m'a fait souffrir. Parce qu'en fait, tu passes de 20 défaites, enfin de 20 victoires, à quasi une année blanche, l'année qui précède les Jeux.
Ouais.
Donc c'est hyper compliqué à vivre. Mais en fait, j'en retire tout le positif parce que ça m'a fait grandir. Je pense que c'est une année qui m'a fait le plus de mal et dans ma vie personnelle et dans ma vie, dans ma carrière sportive. Mais c'est celle qui, je pense, m'a beaucoup et m'a le plus appris.
Bien sûr.
Donc voilà.
Mais c'est, j'en parlais avec, avant-hier, j'étais avec un garçon qui s'appelle Aurélien Sanchez. Peut-être que ça te dit rien, mais
ouais.
C'est un trailer qui, le premier trailer français à avoir terminé une course absolument dingue qui s'appelle la Barclay aux États-Unis.
Ok, oui, je connais.
Tu vois?
Ouais, j'ai déjà regardé un truc sur YouTube sur ce course et apparemment elle est très très difficile. Enfin, il y en a beaucoup qui abandonnent, enfin, quasi tous.
Il y a que 1% des gens qui la terminent.
Mais voilà. Et sincèrement, quand j'ai regardé cette vidéo, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'y aller parce que j'adore les défis. Mais... Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, ouais, peut-être pas super.
Mais tu vois, c'est marrant parce qu'on a beaucoup parlé de ça avec Aurélien. Il me disait que justement, lui, il a toujours recherché à échouer, en fait, parce que ça lui apprend beaucoup plus sur lui.
Ouais.
Et des fois, il échoue parce qu'il y a des événements extérieurs, tu vois, justement. Des drames, mais ça peut être aussi, tu vois, d'autres événements extérieurs.
Ouais, des blessures aussi parfois, mais je suis d'accord avec lui parce qu'en fait, si tu veux apprendre,
ouais,
il faut échouer. Sinon, en fait, t'es dans ta zone un peu de confort où victoire, et puis même dans la vie hors sport, t'as tout ce que t'as ton travail, t'as ton argent, tu te dis mais en fait tout va bien. Donc t'apprends pas forcément ni sur toi, ni sur les difficultés de la vie, et parce que tout roule. Et en fait, quand t'échoues, là, en fait, t'es obligé de te poser des questions pour dire pourquoi, comment je fais pour me relever, et comment j'évite ça la prochaine fois. même si on n'est jamais certain des réponses. Mais en tout cas, ça te force à te poser des questions.
Bien sûr.
Et donc, je le rejoins, ça, c'est des moments, en fait, c'est des périodes dans ta carrière de haut niveau qui te permettent d'apprendre le plus et sur toi et comment être meilleur dans ton sport, en fait.
Ouais, ouais, c'est clair.
Ouais, c'est donc, clair. C'est. Enfin, tout sportif de haut niveau, je pense, te dira peut-être la même chose, hein. Mais, et toute personne, enfin, tout sportif de haut niveau a vécu des difficultés, qu'elles soient perte d'un proche, qu'elles soient défaites, qu'elles soient blessures. Et en fait, bah, si tu ne relèves pas ou que tu n'apprends pas de ça, bah, tu vas avoir des limites.
Bien sûr.
Voilà.
Ouais. Et c'est, d'ailleurs, c'est hyper. Ça pourrait être un peu considéré comme un peu contre-intuitif, tu vois, de te dire, bah, quand tu gagnes, en fait, tu as réussi à rassembler tous les ingrédients pour que ça marche. Et le jour où tu gagnes plus, bah, il manque des ingrédients, donc normalement t'es pas censé apprendre, tu vois.
Ouais.
Mais c'est l'inverse, en fait. Ouais, c'est justement
en échouant. Ouais. Et après, ce qui est dur, c'est de rester. Quand tu gagnes, c'est de rester tout le temps là-haut, en fait.
Ouais.
C'est hyper dur pour. Enfin, moi, je respecte hyper. Enfin, je respecte beaucoup les athlètes de haut niveau qui toute leur carrière gagnent. Je prends l'exemple de Clarissa Gbenino qui a fait une carrière et qui continue à faire une carrière exceptionnelle, où elle gagne tout le temps.
Ouais.
Et en fait, mentalement, c'est peut-être voire plus dur, ou au même niveau, de se dire perdre et se dire ok, bah, maintenant il faut changer la donne. Quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est admirable.
Toi, tu l'as vécu, ça ? D'être beaucoup plus attendu. Mais justement d'être celle un peu à abattre, celle qu'il faut dépasser, et tu l'as vécu, en fait, ce sentiment,
ouais.
Tu vois,
ouais, sincèrement je l'ai vécu, mais en fait au début tu t'en rends pas compte parce que t'es jeune, tu commences à gagner, du coup dans le niveau national, bah, t'es un peu la tête à abattre, je parle de France, hein, parce que bah tous les clubs ils veulent être championne de France, elle aussi. En équipe de France, il y a de la concurrence, donc forcément, qui est saine, hein, qui est très saine. Mais forcément, en fait, même si c'est... Moi, j'ai fait une finale de championnat de France avec ma meilleure amie. Hein.
Okay.
Et en fait, parce qu'on se respecte, en fait, on s'est défoncé la gueule. Enfin, voilà, excuse-moi du terme, mais en fait, on se salue, on se respecte, on s'adore. Mais en fait, c'est soit toi, soit moi qui va avoir le titre. Donc, c'est comme ça, mais c'est le sport de haut niveau qui veut ça. Et en fait, au niveau international, c'est vrai que sans m'en rendre compte, j'ai atteint. Enfin, très jeune, moi, j'allais avoir mes 18 ans et j'ai fait 3e au championnat du monde. C'était mes premiers championnats du monde. Et je sors la compétition d'avant, je sors la championne du monde en titre, une Espagnole, Brigitte Yagüe, et que je salue d'ailleurs. Et en fait, tu te rends compte que t'es jeune, tu rentres dans le circuit, mais. Tout le monde dit, bah, en fait, ok, la française. En fait, il n'y avait pas de française entre guillemets 49, en moins de 49 kilos, qui avait ce niveau-là. Et donc, au championnat du monde, j'ai créé la surprise, déjà ma surprise à moi, parce que je me disais, j'étais très triste d'avoir fait 3e. Hein,
bien sûr.
Parce que je voulais faire. Je me suis dit qu'en fait, j'étais capable peut-être de faire championne du monde et que je perds parce que j'ai eu une fougue lors du combat, un peu d'excès, pas de confiance, mais d'agressivité.
Ouais.
Qui m'a fait prendre un contre, mais en fait ouais c'est pas dur parce que en fait ça te donne de la force. Moi ça me donnait de la force en fait de me dire ok, toutes les nanas là qui sont en face de moi, elles veulent me défoncer, elles veulent me gagner, elles veulent me mettre KO mais je sais qu'au fond d'elles en fait je rentre sur le tapis, je regarde beaucoup les yeux des filles en fait.
Okay.
Et dans les yeux tu vois plein de choses. Et tu vois aussi la peur, tu vois les doutes, tu vois si elle était comme ça, tu la regardes dans les yeux et qu'elle, en fait, elle va un peu baisser son regard parce qu'elle aime pas le contact avec les yeux et que ça l'intimide. Donc, moi, ça m'a pas fait peur, ça m'a pas intimidé et ça m'a pas enlevé de ma force d'avoir longtemps gagné, non.
Ok. T'as mentionné ta meilleure amie et cette finale.
Ouais.
Tu mentionnais aussi tout à l'heure effectivement l'anecdote dans les vestiaires aux toilettes. Comment elle est l'ambiance entre les compétitrices sur un sport de combat, tu vois ?
Alors, à l'entraînement ou
les deux, bah tu vois, si on, c'est très bien que tu fasses le la distinction entre les deux. Mais tu vois, moi je vois typiquement sur chez les garçons dans beaucoup de sports de combat. Alors peut-être les sports, les arts martiaux, tu vois, c'est un peu différent parce qu'il y a cette dimension de respect qui est très forte. Mais on se dirige de plus en plus, tu vois, vers des sports de combat où il faut qu'il y ait du show, il faut qu'il y ait du blabla, il faut que dans, il faut installer en fait une ambiance presque délétère,
je trouve,
pour que ça soit beaucoup plus médiatisable, intéressant, parce que effectivement le public dont je fais partie, dont on fait tous partie, il est un petit peu plus friand de ragots, de méchanceté, de tu vois, de clash comme, comme disent les journalistes, mais comment c'est dans le taekwondo, comment est-ce que toi tu l'as vécu en tout cas? Tu vois, on n'est pas obligé de citer de nom et on n'est pas obligé d'être malveillant, tu vois, on peut le dire avec bienveillance que certains milieux sont exceptionnels, d'autres un peu moins,
c'est ça.
Tu vois.
Ouais, c'est ça. Je pense que chaque, comme tu dis, tu l'as cité, hein, c'est un art martial. Il y a énormément de respect. D'abord, moi, je suis de l'opposé et le taekwondo aussi d'un sport où il y a beaucoup de choses. Où voilà, il faut en faire des masses et tout. Alors il y en a qui le font parce qu'en fait ça leur donne une espèce de force.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que le taekwondo, alors moi je connais la plupart des combattants internationaux et il y a quasi personne, à part de temps en temps un peu les Américains, quelques Anglais. Mais sinon en fait il y a beaucoup d'humilité dans le vestiaire. Bon, dans un vestiaire d'entraînement c'est la pagaille. C'est la pagaille, il y a des fringues de partout, des do-box, ça crie, ça met la musique, ça s'ambiance un peu. Voilà, parce qu'on s'entend tout hyper très bien, qu'on va s'entraîner et qu'on aime ça. Et voilà, bon, alors des fois, je te dis pas, hein, il y a lundi matin à 8h et que t'as séance indiv, et que t'es avec ta pote dans le vestiaire et que tu te regardes, tu te dis, ça va être dur là. Tu vois, il y a ça aussi. Mais, et en compétition, c'est plus particulier parce qu'en fait, tu te changes avec les nanas, et ça se trouve, tu la prends au premier tour et elle est en face de toi en train de s'habiller. Donc, y a quand même un hello, bonjour, voilà, parce qu'on est poli. Mais,
tu sais pas à ce moment-là si tu la rencontres, si tu la combats?
Bah, si, parce que nous, on connaît les tableaux la veille. Il y a nos tirages au sort, qu'on se pèse la veille.
Ouais.
Et, ensuite, il y a nos tirages au sort. Donc, du coup, on sait qu'on va la combattre, on sait qui on prend. Et moi, j'ai déjà pris, alors moi, je m'entends avec, il y a des filles de ma catégorie avec qui je m'entends hyper bien, parce qu'en fait, on s'est rencontrés beaucoup de fois. On a fait des stages ensemble à l'étranger, ils sont venus en France, on est allés, où on se fait un câlin, en fait. On se fait, on se salue, on se prend dans les bras et on se dit, good luck.
Ouais.
En gros. Mais ça s'arrête là. Il n'y a pas de show, il n'y a pas de, je cours sur l'air de combat pour dire, OK, regardez-moi, je suis la meilleure. En fait, tout se fait dans le respect. Et même quand on combat, en fait, moi, je suis une combattante. Je fais pas de coups en douce. Hein. C'est pas l'arbitre, il est derrière moi et je tape en bas ou je tire le. Bon, des fois, bon, faut mettre à son avantage. L'arbitre, il est de ce côté et je tire un petit peu le plastron pour la coller à moi pour pas qu'elle sorte du corps à corps, etc. Mais ça a toujours été très 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 sain et je pense que le taekwondo en général, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai aimé ce sport parce qu'en fait, il est rempli de valeurs, de respect, de partage, de voilà. Donc du coup. Ben, d'humilité aussi, parce que on n'est pas un sport médiatisé énormément. On n'est pas un sport où il y a énormément d'argent non plus. Malgré que là, le taekwondo commence à se professionnaliser, pardon. Et du coup, il y a des shows qui commencent à se mettre en place. Mais, nous, c'est pas ce qu'on peut voir à la télé, de la boxe ou du MMA, je cite. voilà les.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
un petit peu comme ça, tu pourras couper au montage.
Non, mais c'est vrai, je pense que tout le monde comprenait de où je voulais venir et de qui je parlais,
Mais voilà, il y a beaucoup de respect, ouais, et d'humilité notamment les Asiatiques, hein. Enfin, ils te gagnent, ils te saluent, quoi. Ouais. Dans leur tête, ils se disent, je t'ai gagné, mais mais voilà, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ce côté très asiatique, très japonisant.
C'est traditionnel aussi, donc voilà.
Ouais. Ouais. Tu te retrouves effectivement dans le judo, dans le karaté aussi. J'ai été surpris pour avoir rencontré plusieurs karatékas de voir à quel point il peut y avoir des bonnes ambiances et des ambiances.
Ouais, voilà. Et des fois, même, enfin, nous, c'est vrai qu'on, comme les autres sports, mais on fait des stages dans des pays étrangers où on est hyper bien accueilli, où en fait limite ça devient ta famille, hein, parce que
bien sûr.
Voilà, et des fois ok, tu viens en Espagne, bah viens dormir à la maison et tout, je suis là, enfin après ça devient un peu famille, quoi.
Ouais, mais tu vois, t'as pas du tout ça dans tous les sports, quoi.
Non.
Et tu l'as parfois où t'as une ambiance de dingue, où tout le monde s'apprécie.
Ouais.
Et ça se passe bien, et puis dans d'autres c'est complètement l'inverse,
ouais,
quoi, tu vois. Ça se regarde, ça se toise, ça se parle pas.
Ouais, voilà, moi je t'avoue que j'ai vachement de mal avec ça. Si le comportement que tu vas avoir, il peut avoir une influence forcément, comme on le disait tout à l'heure, c'est psychologiquement, voilà, mais en fait c'est pas parce que tu vas en faire des tonnes, et après faut l'assumer, hein. Si t'en fais des tonnes et que tu te fais ramasser la gueule là, bah, je peux te dire que tu regrettes d'avoir fait ça. Donc moi je pars du principe, en fait, faut rester. Enfin moi, hein, j'aime l'humilité, j'aime le respect, et tu peux très bien gagner en étant comme ça.
Ouais.
Après voilà, comme on dit, ça dépend du sport, et je pense que les sports aussi bien médiatisés qui passent beaucoup à la télé, il y a aussi peut-être un aspect un peu financier, quoi, qui rentre dans le truc politique.
Bien sûr,
bah
on oublie
les
toutes les valeurs, hein, pour de l'argent. Hein,
voilà, enfin. Donc c'est pour ça aussi qu'ils font ça.
Ouais, bien sûr. Bah, tu vois, j'ai rencontré un grand agent de sportif, tu vois, et qui me disait. Tu sais, la question avec les athlètes ou les personnes que je représente, des fois, c'est la question qu'on se pose, c'est à partir de combien ça nous fait plus chier, tu
vois.
Et en fait, tu vois, dans cette question-là, c'est très vulgaire ce que je viens de dire et tout, et ça peut choquer certains, mais c'est, ouais, ça te montre, ça, moi, ça m'a ouvert les yeux sur le fait que peu importe ton milieu, en fait, l'argent fait toujours oublier tes valeurs,
bah,
quoi,
oui,
malheureusement.
C'est sûr.
Et c'est ça qui est le plus dur, et je trouve que c'est ça qui est beau, en tout cas, enfin, les athlètes qu'on apprécie encore plus, tu vois, c'est justement ceux qui arrivent à garder cette dimension, tu vois.
Ouais, je pense que c'est important même pour la vie, et puis après tu sais pas le regard des gens, mais c'est un, enfin, personnellement je préfère qu'on dise que je suis quelqu'un de bien et de humble que entendre ah, puis elle se la raconte, ou ouais, trop d'argent dans ce milieu, ou elle aurait pas dû faire ça, elle a perdu, ou enfin voilà, c'est aussi mais effectivement ça rentre en compte, et moi je suis bien contente d'avoir fait du taekwondo, parce qu'il y a pas cette notion là, elle rentre pas en compte.
Ouais, pas partout, ouais. Ouais, ouais. C'est clair. J'enchaîne un peu avec ça, tu vois, justement, avec vu qu'on a parlé un peu des filles, des amis, des copines, et juste avant de lancer l'enregistrement, tu m'as dit que tu t'es fait casser 3 fois le nez, tu vois.
Ah, c'est secret, ça.
et je me dis, ouais, est-ce que justement dans un sport de combat, toi, t'as jamais eu peur de peut-être perdre un peu ta féminité?
Bah non, enfin, on n'y pense pas trop, mais c'est vrai que nous, bah ça, j'ai fait du taekwondo. On n'est pas, faut être longiligne, grande et fine, c'est bien, parce que du coup, tu peux te positionner dans une catégorie où t'as l'avantage de la taille, et c'est pas forcément plus simple pour toi, mais t'as quand même un avantage où la distance, l'adversaire pour venir te toucher, il faut qu'il rentre dans ta distance, etc. Donc non, j'ai jamais eu peur de perdre ma féminité. Bon, par contre, je trichais un petit peu en muscu, hein. Pas trop avoir des grands bras, des gros bras, mais non, mais en vrai, ça on se dit, il y a autant de nanas que de mecs dans le taekwondo. C'est vrai que j'aurais pas choisi la boxe, parce que sincèrement, je pense que j'y serais allée au charbon et j'aurais été déformée peut-être du visage, hein, plusieurs fois, parce que je suis pas quelqu'un quand il combat qui est dans la retenue. Et je me suis fait péter ouais 3 fois le nez, mais la fois où ça m'a plus le marqué, c'est championnat du monde 2011 en Corée contre une Coréenne en quart de finale.
Ouais.
Je gagne 5-3, donc je vais peut-être aller en demi-finale. Ça ferait peut-être ma deuxième médaille mondiale en très peu de temps. Et en fait, je pars en jambe arrière. Donc nous, on dit un pichagi. Donc je pars en pichagi jambe arrière, mais très très prononcé pour lui toucher le plastron au corps.
Ouais.
Et en fait, elle fait avec sa jambe avant, elle fait un toliochagi, on appelle. Donc elle fait un coup de pied jambe avant au visage. Et en fait, bam, elle me pète le nez. Mais moi, en fait, je sais pas que je me fais péter le nez. Donc je continue à combattre.
Bien sûr.
Je continue à combattre. Je me dis.
Tu le sens jamais. De toute façon, à chaud, tu le sens.
Mais je me prends un bon shoot.
Mais t'entends le claque quand même.
Ouais, voilà, j'entends un bon coup. Le compteur, du coup, un coup au visage, ça vaut 3 points. Donc en fait, il y avait 5-2 ou 5-3. Mais en tout cas, elle, soit il y a égalité, soit elle passe devant moi. Donc en fait, moi, ce qui m'importe, c'est que je vois, je me dis, purée. Enfin, la demi, là, c'est chaud. Et l'arbitre, il arrête le combat. Et moi, je regarde mon plastron. Et je me dis, en fait, il y a plein de sang.
Ouais, ça saigne beaucoup.
Il y a plein de sang et tout. Et donc, il arrête le combat. Je vais vers ma coach. Et en taekwondo, tu as une minute avant de te faire disqualifier quand l'arbitre il arrête, en fait. Tu peux pas aller au-delà de la minute, sinon il estime en fait que tu peux pas continuer. Donc, ma coach, en fait, j'ai le nez quasi de travers. Hein.
Mmh.
Donc, ils appellent les médecins. Ils me le remettent quand même droit.
Ouais.
Voilà. Et en fait, elle me met des cotons. Pour que ça arrête de saigner, elle me met des cotons à 45 secondes. Moi, en fait, j'étais pressée de retourner combat. Je lui dis stop, je lui dis ok, j'y retourne. Et en fait, j'y retourne, mais le coton, il devient rouge tellement que je saigne, en fait.
Ouais.
Et je finis le combat. Je crois qu'on fait encore un arrêt où voilà, elle renlève, elle remet. Je finis le combat, en fait, et je le perds, malheureusement. En fait, j'ai pas réussi à me remettre dedans où, en fait, elle avait trop pris un avance sur les points.
Ouais.
Après, en fait, après il y a des enchaînements, etc. Il restait 30 secondes et en fait, ça m'a sorti du combat. Ça m'a totalement sorti du combat. Et puis voilà, je finis la compète quart de finale. Je vais chez le médecin, ils mettent des stéristrips. je sais pas s'ils arrivent à le prononcer, mais voilà. Et je finis comme ça, mais je me dis purée, déjà que mon nez il était quand même amoché, et là on me remet une bosse par dessus. Donc ouais, forcément ça c'est chiant, mais après tout le monde me disait ouais, mais t'inquiète, ça te va bien Yasmina, le nez comme ça. Comment le nez comme ça, je comprends pas, expliquez-moi. Non, mais avec tes bosses. Ok, bah merci. Mais voilà, non, après c'est sûr que je préfère ne pas être amochée. C'est plus agréable pour moi et pour les
bien
autres
sûr.
Mais non, j'ai jamais eu trop peur, en fait, de perdre ma féminité. Bon, après, de base, je suis un peu garçon manqué quand même, mais,
okay.
Mais toujours ouais, j'ai toujours été enfin, après, je pense qu'en grandissant, on se féminise un petit peu, forcément. Mais ouais, non, c'est pas un truc qui me suis dit.
Ouais, ok, d'accord. Non, mais je te posais la question parce que tu vois, là, pareil, ça me fait penser à l'interview qui est sortie cette semaine là avec Tess Le Deux et elle, tu vois, qui me disait elle fait du ski freestyle,
ouais.
Tu vois, elle fait des gros sauts et tout. Et tu vois, t'as un masque, un casque, des manteaux et tout.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Et certes, tu sais, tu peux mettre de la couleur, tu peux mettre des choses, mais ça reste une espèce d'uniforme, tu vois, sur lequel tu peux pas trop exprimer ta personnalité.
C'est vrai.
Tu vois.
C'est vrai.
Et du coup, elle doublait d'efforts en dehors de son sport,
ouais.
Pour rester féminine, tu vois, maquillage, coiffure,
ouais,
et tout.
Ouais, se faire jolie et sentir
et
bien
du
et belle,
ça.
Quoi.
Ouais, exactement, prendre du plaisir à ça. Et tu vois, et en réécoutant, du coup, l'interview, bah, tu vois, je savais que j'allais te rencontrer, et du coup, je pensais à toi en me disant que c'était encore plus fort, parce que tu passes une grande partie de ta journée où t'es t'es l'uniforme de l'athlète, donc
ouais, c'est,
tu vois.
C'est un dobok, nous.
Donc le dobok,
ouais.
Tu vois, avec le plastron, le casque, les gants et tout. Vous avez des gants? Non.
On a des gants, c'est des mitaines, des pitaines.
Ouais, c'est ça.
Et après, c'est vrai que moi, je me suis toujours quand même arrangé, enfin, j'aime être propre sur moi et j'aime être, me sentir bien.
Ouais.
Donc même quand je partais en compète, enfin, moi, je faisais un petit chignon haut. Les filles du taekwondo, de manière générale, hein, sont plutôt jolies, plutôt féminines, même en compétition.
Ouais.
Après, le dobok, c'est très fin, c'est limite joli à porter.
Bien sûr. Ouais.
Donc, c'est vrai que par rapport au freestyle où, où du coup il y a le casque, on voit pas les cheveux, on voit pas le visage, on voit quasi rien. C'est un peu différent, ouais, c'est vrai. Ouais.
Pourquoi tu m'as dit que t'étais garçon manqué?
Mais parce que en fait j'aime trop la bagarre tout le temps. J'aime trop me battre. J'aime bien me battre.
C'était pas un comportement masculin.
Je suis féminine dans mon comportement, etc. Mais après en grandissant peut-être un peu plus. Hein. Mais c'est vrai que non, j'ai toujours aimé un peu la bagarre. Je me souviens un jour ma mère elle m'avait acheté une Barbie.
Ok.
Et mon frère il avait un truc Action Man. Et en fait, je lui ai dit, no way, bon, on va changer la Barbie, maman. Mais j'étais petite. Et je lui ai dit, en fait, moi, je veux comme mon petit frère, je veux Action Man. Et le t-shirt aussi, on le change. Hein. Donc, en fait, ouais, je me suis aperçue que j'avais ce trait-là un petit peu. Et, mais après, non, j'aime être bien habillée, j'aime être bien. Mais c'est vrai que j'ai ce côté-là un petit peu de garçon manqué où, après, est-ce qu'il s'est estompé avec le temps? Ouais, je pense un petit peu.
Ok. Okay. Non mais c'est marrant que tu le vois comme ça et je sais pas si enfin je pense que c'est des termes qu'on aurait un peu supprimés tu vois de se dire garçon manqué ou c'est lui tiens ce garçon là il est très féminin tu vois je pense
ouais
faut essayer un peu d'enlever tout ça de notre langage parce que ça nous met aussi un peu nous-mêmes dans des cases tu vois et je pense que c'est juste des traits de personnalité qu'il faut savoir les
je pense que quand j'étais petite bah comme tu dis hein, je pense que avant c'est le monde a beaucoup changé et les gens peut-être prennent un peu plus mal ce qu'on leur dit et encore comme tu dis c'est des cases hein. Mais c'est vrai que je me suis en fait le mot garçon manqué ouais il s'est estompé au fil des années en fait parce que
Mais toi on te l'a beaucoup dit?
Non.
Non, okay.
Sincèrement, on me l'a jamais trop dit, mais on m'a dit que j'aimais bien. Enfin, mon entraîneur me répétait souvent que j'aimais bien la bagarre.
Okay.
Mais non, c'est moi qui me le suis dit toute seule. En fait, je me suis dit peut-être que je suis comme ça. Enfin, je suis un garçon manqué parce que j'aime ça. J'aime le sport, etc. Mais en fait, il y a plein de nanas qui sont championnes et qui aiment le sport et pour autant elles sont voilà.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que je te rejoins. Je suis d'accord avec toi. C'est des cases en fait qu'il faudrait même pas à laquelle même pas penser en fait.
Ouais.
Comme tu dis, je pense que c'est un trait de personnalité qui a fait que.
Ouais. Puis toutes les filles ont le droit d'aimer la bagarre. Y a
ouais,
pas de
ouais,
problème.
C'est vrai.
Tant que c'est pas sur moi, je suis. Ouais, y a pas de souci. Je voulais aborder un autre sujet important que t'as évoqué un peu en filigrane, notamment bah, parce qu'on a été mis en contact par la Banque Populaire et la team BPORA.
Team BPORA, c'est ça.
Au sein de laquelle tu fais partie, qui est ton sponsor, qui te soutient depuis 2017, il me semble, tu m'as dit. Tu vas me raconter un peu l'histoire de comment ça s'est fait, mais comment est-ce qu'on vit du taekwondo aujourd'hui entre 2010 et 2020 tu vois
je dirais même avant bah ouais c'est vrai que c'est un sport c'est un petit sport on a une petite fédé il y a pas énormément d'argent parce qu'en fait on parle souvent d'argent parce que l'aspect financier forcément il va t'aider à aussi de réaliser alors il en faut pas énormément mais il en faut un petit peu quand même et alors j'ai commencé, je suis rentrée en équipe de France hyper jeune. Donc, j'allais avoir mes 15 ans à Aix-en-Provence et j'ai eu la chance d'avoir une entraîneur, donc Myriam Bavrel, qui a été derrière moi directement. Donc c'est elle qui m'avait sélectionnée aussi des mon titre de championne de France. Et en fait, elle savait que ma mère avait 11 enfants, que du coup, bah voilà, ça allait être un petit peu difficile, etc. Et en fait, elle a tout mis en œuvre dans un premier temps pour que j'ai des subventions pour payer la structure, pour
d'accord.
payer le Pôle France. Donc voilà, ça c'était la première chose. Donc quand j'étais de 15 ans à 17 ans, tu t'en soucies pas, c'est ta mère qui fait ça.
Ouais.
Arrivé un moment, tu te dis bon, faut quand même que je soulage ma mère. Et que je devienne un petit peu indépendante. Donc voilà, j'ai performé très tôt. En 2009, bah, je fais troisième au championnat du monde. En
t'as 2010, 18 ans à ce moment-là.
Ouais. À 18 ans. En 2010, je fais championne d'Europe moins de 21 ans. Je fais vice-championne d'Europe senior. je gagne la Coupe du Monde francophone, je fais un carré final, donc je fais troisième sur une compète où il y a les huit meilleures nanas mondiales, en fait. Et en fait, suite à ça, ma fédération a proposé ma candidature à l'armée, parce qu'ils faisaient des contrats. Donc du coup, j'ai signé avec l'armée, donc le bataillon de Joinville, l'armée des champions, en 2010.
Ouais.
Où là, en fait, je reçois ma première paye. J'avais 18 ans, j'allais avoir 19 ans. En fait, voilà, je me suis dit, c'est le début, je suis riche. Je suis blindée. Non, mais voilà, j'étais trop contente, en fait. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, je demande plus à ma mère pour rentrer en train à Lyon. Voilà, j'étais à l'INSEP, parce que j'étais rentrée à l'INSEP en 2009. Donc voilà, je prenais le train tous les week-ends pour rentrer. Si je voulais me faire une compétition en plus, que la Fédé prenait pas en compte, ben, je pouvais me la faire, les équipements, etc. Donc voilà, donc je remercie déjà dans un premier temps l'armée parce que grâce à elle, grâce à son soutien financier et psychologique, en fait, je pense que j'ai pu m'entraîner aussi sereinement et continuer sur ma lancée de médaille sur médaille et de titres. Et en 2016, donc la BP Aura, donc je rencontre, je fais les jeux lors d'une soirée chez les Bleus, je rencontre Thierry Braillard, donc le secrétaire d'État de l'époque, et en discutant, il me dit bravo, félicitations, etc. Et il me demande si j'ai un sponsor, etc. Et je lui dis que non, que voilà que c'est difficile et que j'aimerais aller jusqu'à Paris 2024 à l'époque, mais du coup, c'est transformé en Tokyo 2021. et en fait, il me dit, lui, c'est un Lyonnais.
Ouais.
La semaine prochaine, enfin, quand tu rentres des Jeux, tu viens à Lyon. On va se voir. Donc, tu me fais un message quand tu rentres des Jeux. Promesse tenue, je lui fais un message, on se voit, il met en contact avec Vincent Jay. Donc, qui travaille à la BP Aura et c'est lui qui m'a recruté et qui m'a aidé.
Ancien grand biathlète, pour ceux qui connaissent pas.
Champion olympique de biathlon.
Voilà, ancien grand biathlète et qui gère maintenant la team BP Aura, qui est à l'origine même de la création.
Ouais, qui a une grande responsabilité dans la team BP Aura et qui. Et il fait une autre partie aujourd'hui, mais voilà, qui m'a recruté. Donc, on s'est eu. Moi, j'étais à la semaine olympique.
Ouais.
Et il m'appelle. Et on échange et je lui explique un petit peu mon parcours, je lui explique voilà ce que les difficultés que j'ai, mais aussi les bonnes choses, voilà et ce que j'aimerais faire par la suite. Il me dit ok, envoie ton dossier au pack de performance, etc. Tu vas signer à ton profil, il est très intéressant, ton histoire elle est inspirante, ton parcours sportif également, ta carrière, donc tu vas signer avec nous. D'ailleurs merci hein. Enfin, merci à toute la team BP Aura aussi également. Mais voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et en fait, j'ai signé mon premier contrat avec eux. Mais j'étais riche. J'étais riche. En fait, pour rigoler avec mon frère, je lui disais, mais ça y est, je suis riche. Hein. Je signe à la banque. En rigolant comme ça. Et puis, je lui dis, mais en fait, je suis même riche de personnes, en fait. Parce qu'en fait, je rencontre des gens exceptionnels. Je suis en contact d'autres athlètes également. Et en fait... à ce moment-là, c'est vrai que je venais de faire demi-finaliste au jeu. J'étais triste.
Bien sûr.
Et en fait, je me suis dit, donc t'as un sponsor énorme, donc la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui sait que tu viens de faire demi-finaliste au jeu, mais en fait, qui t'ouvre quand même ses portes et qui disent ok, on te prend avec nous et tu continues l'aventure olympique avec nous et tu continues ta carrière avec nous et nous, on va te soutenir et financièrement et psychologiquement. Et donc voilà, donc pour moi c'était une chance. Sincèrement, c'est de l'argent que j'ai mis de côté, hein. Mais non, mais voilà, j'étais hyper contente. Je les remercierai. Et je serai toujours reconnaissante. Et encore aujourd'hui, en fait, moi je suis en fin de carrière. Je bascule avec l'armée. Et encore une fois, ils me disent OK, nous on te garde avec nous, mais ça va être un autre type de contrat. Donc c'est du sponsoring, mais ça va être différent. Donc aujourd'hui, je suis ravie de collaborer avec eux et je suis ravie de les aider dans ce que je peux faire moi à mon niveau. Et voilà, c'est faire des conférences et c'est les accompagner sur. Ils avaient un projet avec Imagine Sport, je ne me rappelle plus exactement du terme. Bah, je les ai accompagnés ou je les ai chauffés, je les entraînais un petit peu. Donc en fait, c'est que des moments géniaux.
Ouais. Mais c'est, tu vois, moi, c'est un peu ce que j'ai découvert aussi avec eux. C'est tout cet aspect humain et qu'on voit pas forcément, tu vois, via un compte Instagram, via des interviews et tout. Et tu te dis pas qu'en fait, il y a une aventure humaine qui est aussi en train de s'écrire. Et je trouve que BPORA encore plus, pour avoir rencontré en plus pas mal de teams d'athlètes, ils ont vraiment écrit une histoire et dans lequel vous êtes tous unanimes, quoi. Vous passez du bon temps et puis en plus tu sens que en plus de ça le soutien financier, il t'enlève un stress, il t'enlève un poids
qui
était compliqué à gérer.
Il y a tout qui entre en jeu et il y a tout qui te fait du bien. Et c'est vrai que en fait même leur personnalité, la manière de nous accueillir. De nous admirer aussi limite parce que voilà, je pense que aussi pour eux c'est ils adorent les athlètes de haut niveau, ils adorent le sport en général et c'est valorisant aussi pour eux, mais je pense que ça l'est tout autant pour nous de faire partie de cette team et de partager de partager des moments avec eux, mais que ce soit sport ou que ce soit autre en fait.
Tu l'as mentionné, ils t'ont pas lâché après Tokyo. Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu l'as vécu ce changement de carrière?
Eh ben, disons que j'ai arrêté. Alors j'ai arrêté pour moi, je pense que j'avais fait le tour. Mais en fait, j'ai eu une grosse opération en 2013, donc j'ai une prothèse méniscale qui s'use au fur et à mesure des années, des régimes, de l'entraînement, du surentraînement, de la fatigue, des compétitions, des voyages, décalage horaire, etc. Et je me suis posé pas mal de questions, parce que t'arrives à un moment de ta carrière où si t'as plus la flamme quand tu rentres sur le tapis, parce que t'as une douleur aussi au genou constante, parce que des fois, tu n'arrives pas à perdre ton poids, etc. C'est difficile. En fait, tu te mens à toi-même. Tu sais que tu n'es plus là. Enfin, il faudrait que tu passes à autre chose. Mais parce que tu as un sponsor, parce que moi, j'ai l'armée, parce que j'ai BPORA, parce que j'adore ça, je me dis non. Tu restes, tu continues. Mais des fois, ça, tu te fais plus de mal à toi-même en faisant ça. Tu vois. Et en fait, moi, je me suis dit OK. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait le tour de ma carrière. Je pense que j'ai une blessure qui fait que s'aggraver, donc faudrait que je pense aussi un peu à l'après. Et je l'ai préparé. Et quand tu prépares ta reconversion, quand t'es bien accompagné, donc je remercie l'armée encore une fois et la BPORA, parce qu'en fait, moi je prime l'honnêteté. Donc je leur dis voilà, aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de haut niveau. Je vais basculer doucement de l'autre côté. En toute honnêteté, c'est la fin. Et en fait, ils font tous deux le choix de me dire « Mais c'est génial, on va t'accompagner de l'autre côté, en fait. » Et donc, ça m'a fait bizarre, parce que tu passes d'un régime, en fait, d'une vie hyper cadrée, hyper calculée, de minute en minute à « Tu te lèves le matin. » Moi, j'avais tout le temps du poids à perdre parce que je suis en moins de 49 kilos. Je suis une girafe, donc tu vois, c'est dur à perdre. Hein,
je confirme. Tu sais que la première fois que j'ai regardé ta catégorie de poids, j'étais surpris.
Ah ouais,
je me suis dit,
moi
non, mais c'est pas possible.
Je me suis dit, tu t'es trompé de caté.
Il y a un problème sur Wikipédia là. Je vois tout et je suis OK.
Ah, c'est un point de nourrisson. Hein. Enfin, j'abuse, mais c'est vrai que c'était très très dur. Donc voilà, je fais 53, 54 kilos, tu descends chaque fois en 49. Donc voilà, tes journées, elles sont rythmées déjà en fonction de ton régime, ta perte de poids. Elles sont rythmées en fonction de tes entraînements. Donc est-ce que ta séance indive à 8 heures ou est-ce que c'est à 10 heures parce que tu fais ton entraînement avec tout le monde. Après l'après-midi, donc tu avais matin, soit 8 heures à 10 heures, école, un cours. Après entraînement, moi, entraînement, qui dit entraînement, dit récup. Ma récup c'est du bain chaud, du bain froid, kiné, etc. pour me soigner un petit peu, etc. C'est vrai que je négligeais pas du tout cette partie-là.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ça reste un sport de combat où tu prends beaucoup de coups.
Ouais.
Quoi.
Ouais. Alors, tu les sens plus les coups, mais ton corps il les sent quand tu t'arrêtes.
Bien sûr.
Donc, t'as des œufs dans les pieds, t'as les mains qui se, voilà, qui des fois tu fais un coup de poing, t'es mal positionné, qui se tord. Enfin, les genoux, ça ramasse. Parce qu'en plus, moi, j'avais un style de combat un petit peu farfelu où à la fin, voilà, donc je m'abîmais un petit peu plus aussi les articulations. Mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre quand j'ai arrêté parce que j'avais pas tout ça. Alors, la première chose que je fais, c'est que je vais au resto direct. Hein. Alors là, je me dis, mettez-moi la carte, s'il vous plaît. Non, mais en fait, juste le fait de rentrer le week-end chez toi.
Les bouchons lyonnais, là.
Ah non, mais ouais, tu rentres chez toi le week-end et en fait, tu peux aller manger, tu peux aller manger au restaurant avec ta famille, quoi.
Parce que ça, moi, tu connaissais pas, quoi.
Hein?
Tu connaissais pas ça.
Non, mais moi, toute ma carrière, en fait, mais même quand je venais ici à l'armée, qu'on avait des rassemblements, j'étais au régime, c'était manque de peau, c'était tout le temps en régime. Je rentrais chez moi le week-end. Ouais, Elias, on fait un week-end, on fait un resto samedi soir. Ouais, bah non, je viens pas, je suis au régime, je peux pas. Et en fait, c'était rythmé à ça. Je n'avais, enfin, à part le haut niveau, c'est vrai que moi, c'était ça. Alors, j'étais peut-être pas capable de faire deux choses en même temps, mais en tout cas, j'arrivais pas trop à m'amuser et à faire du haut niveau. Mmh. Et j'y arrivais pas. Et moi, j'ai ma meilleure amie actuelle, là, à Bignaré, qui est championne du monde, championne d'Europe, vice-championne olympique avec moi à Rio. L'opposé de moi. Mais l'opposé. Entraînement, c'est ça, ça. Il n'y avait pas de récup. Pas de, c'est... En fait, elle fait tout au freestyle. Mais ouais. Une championne, tu dis... Même moi, je me dis, mais attends, il faut m'expliquer. On a le même résultat, mais j'ai travaillé 10 fois plus que toi. Mais pourtant, elle est sérieuse. Alors, quand elle fait son entraînement, c'est son entraînement. Mais en dehors, c'est pompé l'op. Enfin voilà, elle se prend pas la tête. Et ouais. Elle a réussi comme ça.
Ouais.
Et voilà, donc pour en revenir vraiment à ta question, c'est ouais, ça m'a fait bizarre. Oui, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, comme j'avais préparé, comme je suis quand même dans un milieu très sportif, j'ai continué à m'entraîner. J'ai toujours adoré manger hyper bien. Donc en fait, j'avais plus de restrictions alimentaires, mais j'aime avoir une bonne hygiène de vie. Donc j'ai gardé aussi ça du haut niveau, donc l'entraînement, manger correctement, mais je suis pas dans la privation d'un resto ou de manger. Bon, je suis quelqu'un de gourmand, donc voilà. Mais voilà, encore une fois, quand c'est bien préparé, la reconversion, elle fait bizarre parce que tu passes de ça à ça. Mais en fait, quand c'est toi qui l'as choisi et que t'es épanoui, ça passe. Enfin, c'est génial.
Ouais, ok, bon bah écoute, cool, je suis ravi de l'entendre.
Tout va bien.
je sais. Peut-être pour terminer, ouais, tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui ce que tu fais, quel est ton rôle au sein de l'armée et qu'est-ce que tu fais là. et puis ouais, je suis très curieux de savoir un petit peu.
Eh ben en fait, quand j'ai arrêté ma carrière sportive, c'est-à-dire que j'ai continué dans l'armée parce que j'avais un contrat avec eux et que j'adorais un petit peu. Ça ressemble aussi aux valeurs un peu que j'ai toujours eues. Bah voilà, la loyauté, le respect, le dépassement de soi, détermination. Et je me suis dit, ben en fait, ça me correspond. Je vais pas aller chercher midi 14h. Je vais rester à l'armée. Et j'ai eu la chance d'intégrer la direction. Déjà le CNSD, qui est le Centre National des Sports de la Défense, enfin qui est l'école du sport. Et moi, j'ai intégré la DTSM, donc la Direction Technique des Sports Militaires, où ça traite de championnats du monde militaire, de championnats de France militaire, de rassemblement des équipes de France militaire. Donc, il y a 41 équipes de France militaire aujourd'hui, qui sont constituées de réservistes, de militaires d'actifs, et d'où j'étais avant, de sportifs de haut niveau de la défense.
D'accord.
Donc, quand tu signes à l'armée, en fait, tu fais partie des sportifs de haut niveau de la défense, des militaires.
Ouais.
Et voilà, donc en fait, je suis dans la direction technique des sports militaires. Il y a une équipe de France militaire aussi de taekwondo.
Bien sûr.
Et moi, en fait, je suis adjointe au conseiller technique militaire, prochainement conseillère technique militaire de taekwondo. Et on a des championnats du monde militaire de taekwondo. Donc j'accompagne aussi l'équipe qui partira. L'année dernière, c'était en Iran, donc on n'a pas pu le faire parce que ça a été annulé. Mais voilà, et après je fais aussi une partie un peu administrative. Ouais, c'est un peu délicat. C'est très délicat même. Mais voilà, je traite aussi un peu d'administratif parce que faut sortir des notes d'organisation des championnats du monde, des championnats de France, etc. Donc voilà, je travaille avec une superbe équipe. Un chef top et
donc votre mission c'est à la fois de les organiser et d'accompagner la performance de ces équipes.
C'est ça.
Donc voilà. Organiser les événements,
ouais,
accompagner la
là cette année en France on a 2 championnats du monde militaires.
Ouais.
Le premier de triathlon.
Ouais.
Où il y a des sportifs de haut niveau en fait qui sont militaires, donc des sportifs de haut niveau.
Ils le sont tous non, dans l'équipe de France de triathlon quasiment.
Quasi, il y en a au moins 7. Donc Bergère, il y a
Léo Dorian.
Conin, ouais, c'est ça. Ça va, tu connais.
Je fais beaucoup de triathlon, tu vois.
Ben voilà, eux, en fait, ils sont SHND, donc ils font partie du bataillon de Joinville de l'armée des champions.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est du 5 mai au 9 mai, ils vont participer au championnat du monde militaire, en fait, une partie d'entre eux, militaire de triathlon. Et ensuite, la France aussi a organisé, donc la direction technique des sports militaires, le CNSD, a organisé aussi les championnats du monde de rugby à 15 à Rennes.
D'accord.
Donc cette année, c'est les gros événements que la France a réalisé, enfin organisé. Et après, sinon, on part sur voilà, il y avait le volley au Sri Lanka, il y a les mondes de judo militaire en République dominicaine. Donc
d'accord.
Voilà, on est sur la préparation. Il y a une cellule sport d'élite qui s'occupe de la préparation des équipes de France militaires.
Ok, d'accord. Et quelle est la spécificité des équipes de France militaires? Tu vois, c'est désolé, peut-être que c'est une question vraiment naïve que je pose, tu vois, mais est-ce que le but justement c'est de maintenir une culture sportive au sein de l'armée et aussi de faire rencontrer les différentes armées internationales, tu vois, sur un terrain pacifique, tu vois. Je fais des hypothèses, tu vois.
Tu touches un peu.
c'est un sujet qui m'intéressait depuis longtemps et là je me suis dit je suis avec la personne idéale avec qui je peux en parler, tu vois. Donc quel est le, tu vois, est-ce que c'est aussi détecter les pépites pour le sport de haut niveau? Quel est le vrai but des équipes de France militaire?
Alors déjà le but, je sais pas si c'est le but premier, mais c'est le rayonnement des armées à travers le sport.
D'accord.
Donc, c'est hyper important parce que l'armée c'est l'opérationnel. Voilà, c'est ce qui permet, enfin voilà, on a une grosse armée, l'armée française, mais là les équipes de France militaire et tous les championnats qui sont organisés, c'est permettre de faire rayonner les armées à travers le sport. Ensuite il y a la partie un peu aussi lien armée-nation. Voilà, qui entre en jeu, et c'est aussi le lien que l'armée française peut avoir avec il y a l'OTAN, donc c'est politique aussi, mais c'est des liens qui sont entretenus via le sport.
Bien sûr.
Avec le Sri Lanka, avec la République dominicaine, avec la Grèce, les Pays-Bas, etc. Donc c'est aussi des liens, mais qui servent certainement peut-être pour la guerre, hein. Mais en fait, ils font à travers le sport, ils gardent aussi cette amitié. Et nous, on a le CISM, c'est le Conseil international du sport militaire.
Okay.
Là, il y a toutes les nations en fait qui se réunissent pour faire des espèces de réunions pour organiser les championnats de France. Mais c'est vrai, le but premier, je pense, c'est que c'est faire rayonner les armées à travers le sport, c'est de garder ce lien, entre les armées, entre les différentes armées, mais françaises, de pays en fait.
Ouais.
C'est garder ce lien-là à travers le sport aussi, et c'est des échanges bilatérales entre l'Irlande, le foot, ils font souvent des échanges avec l'Irlande, le rugby aussi. Donc je pense que c'est ça en fait. Et après, c'est aussi de maintenir le niveau sportif des armées, parce que ils s'entraînent beaucoup dans l'opérationnel, sortir en fait le militaire, ça fait rayonner aussi les unités. Je te dis par exemple, je sais pas, peut-être que tu viens du 503, je te dis un truc au hasard, à Nîmes.
Oui.
Et ben en fait ton unité, tu vas partir en compétition, en fait elle va être fière quand tu vas rentrer de dire mon militaire en fait il vient de faire champion du monde avec l'équipe de rugby à 15.
Ouais.
Tu vois, c'est le rayonnement, c'est les liens armée-nation, c'est les liens d'amitié qu'il peut y avoir entre les différentes nations militaires. C'est tout ça.
Ok, c'est hyper intéressant. Tu vois, je le voyais pas du tout sous cet angle, mais c'est hyper pertinent. Tu vois, tel que tu l'exprimes. Donc, merci pour ces petites précisions.
Bah, de rien. Je sais pas si j'étais très clair, mais voilà.
Mais je demanderai. Je passerai un petit coup de fil. Je sais pas à la team communication pour avoir des petites précisions. Mais
non.
Mais trop bien. Écoute, je voulais aborder ce sujet parce qu'en plus ça fait partie de ton activité. Donc, c'est hyper intéressant. La toute dernière question que je pose pour terminer ces interviews, c'est un passage de micro, et c'est de savoir à qui est-ce que tu tendrais le micro pour justement pouvoir parler d'esprit de la combattante ou parler de féminité ou parler d'après carrière, tu vois, tout ça.
Ouais.
Qui est-ce que tu aurais envie de donner la parole sur un format un peu comme ça?
C'est difficile parce que j'en ai deux trois en tête, mais enfin je t'en ai parlé un petit peu avant. Pour moi, ce serait Abby Niaré.
Ok.
C'est ma meilleure amie, mais c'est aussi une sportive, voilà, que j'admire, une championne, même pas une sportive, une championne que j'admire parce que elle a traversé beaucoup aussi, pas mal d'épreuves au niveau blessures, contre-performances, défaites. Mais en fait, elle était là quasi dans tous les grands rendez-vous. Donc ouais, aujourd'hui, en fait, elle s'occupe des Paralympiques de l'équipe de France de taekwondo. Elle a basculé elle aussi, elle a fait la bascule. Sinon, je sais pas si t'en as déjà fait un, mais Clarisse Agbeninou.
J'aimerais bien. Faut que je rappelle son âge.
Voilà, je sais pas si elle a beaucoup de temps, mais je pense que son histoire à elle aussi, elle peut être très très intéressante, étant donné en plus qu'elle a fait aussi, elle a eu un bébé, elle a repris. Enfin voilà, elle est maman, donc. Ça peut être très inspirant pour pas mal de sportives.
Ouais, ben j'aimerais beaucoup. En plus, j'ai eu beaucoup de mamans sur le podcast, tu vois, pour parler justement maternité, organisation.
Bah ouais, parce que c'est
organisation du retour et tout sur.
C'est pas évident, je pense. Et moi, par exemple, je sais pas si j'aurais été capable de faire ce que certaines font, d'avoir un enfant et de revenir, et encore plus dans un sport à catégorie de poids.
Ouais. Je peux comprendre.
Voilà. Ouais. Donc, ouais, admiratif.
Et tu vois, j'ai quand même appris que ça, le fait, après avoir eu un enfant, ça augmente ton taux de globules rouges.
Oui.
Et du coup, t'as une meilleure VO2 max.
Oui, ça, c'est vrai. Mais je peux pas le confirmer, hein. Parce que je l'ai pas vécu, mais apparemment, je l'ai lu aussi. Mais tant mieux aussi, il y a du positif à ça.
Bien sûr.
C'est bien.
Mais donc écoute, ouais, c'est rendez-vous pris. Donc je vais faire un maximum pour pouvoir aller voir. Je te demanderai peut-être le numéro d'Abby si tu me le permets.
Pas de souci.
Merci infiniment, Yasmina. Je me suis régalé sur ce moment.
De rien.
J'espère que toi aussi.
Ouais, c'était génial, sincèrement. Je suis peut-être un peu partie à droite à gauche parfois, mais ouais, merci de ta venue. C'était vraiment chouette de te rencontrer aussi et puis
bientôt.
Ouais, à bientôt, j'espère. De toute façon.
Et ben salut Yasmina. Ciao.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !